Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Bruno Dussaussois et son invité Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques dans une série de 6 émissions consacrées à l'histoire du climat.
Quatrième temps de notre série consacrée à l'histoire du climat, cette semaine, les accidents climatiques. Commençons, si vous le voulez bien, Emmanuel Leroy-Ladurie, par les inondations. La crue de la Seine en 1910 est célèbre. Elle a fait d'ailleurs l'objet d'une exposition à la Bibliothèque historique de la ville de Paris il y a quelques années. Alors peut-on remonter dans le temps jusqu'aux inondations de 1740, une inondation centennale de la Seine, ou même en 1658 ou antérieurement?
C'est-à-dire pour moi, les inondations, je les ai rattachées en général à des phénomènes plus complexes. Je pense, j'ai parlé déjà de 1740, effectivement, un grand hiver, une débâcle avec les inondations de la Seine considérables, et puis une série de mauvaises récoltes et finalement une crise de subsistance. Celle de 1658 est plutôt un épisode d'inondation relativement pur, sans grand impact sur les subsistances.
Mais je me permettrai de citer un de vos livres, Le réchauffement de 1860 à nos jours, qui est le troisième volume de votre histoire humaine et comparée du climat. Et vous nous faites part d'une anecdote à propos de M. Émile Biasini. Vous dites, M. Émile Biasini, qui fut avec efficacité le surintendant des bâtiments et successeur lointain de Jules Ardoin Mansart au temps de François Mitterrand, me fit remarquer un jour qu'il s'était arrangé pour que les hauts niveaux vulnérables de la nouvelle Bibliothèque nationale de France, dont vous avez été directeur, fussent placés 30 cm au-dessus du plan supérieur de la susdite inondation de 1910. Je n'osais lui faire observer qu'il fallait encore ajouter 30 cm supplémentaires, l'inondation de 1658, dont nous venons de parler, étant elle aussi à 30 ou 40 cm au-dessus de sa redoutable consœur de 1910.
Oui, il n'y a pas de doute que, bon, je me suis un peu amusé.
C'est une anecdote, là.
Mais effectivement, 1910, il est difficile de faire mieux, mais on a fait un tout petit peu mieux en 1658, mais en tenant compte du fait que le cours de la Seine a été tout de même domestiqué. Entre-temps, il y a des quais qui ont été créés, des ponts, et donc l'effet de barrage était plus fort en 1910 qu'en 1658, où pourtant l'élévation du niveau a été plus forte.
Alors, pour s'en tenir au XXe siècle, il y a eu évidemment quelques hivers très froids. Je citerai alors 1917, 1939-40, 41-42, le général hiver au secours du général Zhukov, enfin tout ça c'est connu, 1956. Alors pouvez-vous dresser le portrait d'un de ces grands hivers du siècle dernier et puis le comparer, le cas échéant, avec un hiver rude des siècles précédents?
Alors sans aller jusque-là, je dirais que le dernier grand hiver, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des hivers importants, est celui de 1963, avec 4 mois quand même froids, et je crois qu'on n'a quand même pas eu l'équivalent, mais ça peut revenir chaque année, il n'y a aucun doute, parce que même malgré le réchauffement, les grands hivers sont toujours présents, disons qu'ils sont peut-être simplement un peu moins fréquents. Alors, un hiver très intéressant, c'est février 56, dont je me souviens de façon physique, comme beaucoup de gens d'un certain âge, c'est-à-dire on avait un hiver assez normal, et brusquement, en février 56, il y a eu une onde de glaciation, en quelque sorte, qui a traversé la France du nord au sud, et il y a eu la destruction à peu près totale des oliviers.
En Languedoc et en Provence.
Et de ce point de vue, cela rappelle du reste ce qui s'était produit en Languedoc et Provence, en Sardaigne aussi.
Ça s'était produit en 1709.
Et ce qui s'était produit en 1709, où il y avait également une destruction totale de l'oliveraie, repoussée, plus ou moins bien restaurée, mais plutôt remplacée à l'époque par des vignes. Alors, vous avez 85, 86, 87, vous avez des hivers froids. Alors, nous avons eu les étonnantes années 1940. C'est-à-dire, d'une part, un premier apogée, pas bien méchant, du premier réchauffement du XXe siècle, qui démarre donc la température moyenne de la France qui devait être à 11,4 dans les années 1900-1910, monte à 12 degrés en moyenne dans les années 40-50, avec de très beaux étés, 45, 49, enfin en général, tous les étés à partir de 43 jusqu'en 1950, sont presque tous de beaux étés. Mais en revanche, le paradoxe, et qui est normal du reste, c'est qu'on a 3 hivers importants, 40, 41, 42, et en particulier, alors j'ai eu une petite polémique avec un de mes amis qui m'a dit que j'aurais pas dû parler du général hiver, pourtant il est certain que si l'on regarde les les statistiques thermométriques russes, l'hiver de 41-42 a été l'un des plus froids depuis des dizaines d'années. C'est toujours froid, de toute façon, en Russie. Et que la Wehrmacht, évidemment, l'armée russe aussi, mais enfin, comme elle était plus, comme on dit, plus fraîche,
plus équipée,
elle a pu remporter sa première victoire sur les Allemands pendant, dans l'hiver de 41-42, devant Moscou, et qui a été suivie par d'autres épisodes du même genre.
On peut citer, j'allais dire, le responsable, c'est-à-dire, en fait, le, je crois, l'anticyclone sibérien.
Oui, et puis surtout, le responsable, c'est Hitler qui n'avait pas prévu.
Non, non, bien sûr, je voulais dire pour, ouais. pour cet hiver, évidemment.
Oui, ça, toujours,
pour l'hiver.
Ça, mais ça, c'est les anticyclones.
C'est-à-dire ces incursions d'air arctique qui oui. viennent de Scandinavie.
Mais alors là, c'est un fait, disons, assez général. Alors,
il y a aussi, je crois, les dépressions qui viennent, elles, de l'Atlantique.
Ah, ben ça, d'une façon générale, vu le contexte, c'est assez pas. Il y a la simplicité qui est trop simple, que je veux dire, parce que je ne suis pas un climatologue. Mais il est certain que la grande crise démographique de 1315, liée à une année très pluvieuse, c'est une année dépressionnaire, une année sans été, avec les dépressions qui arrivent de l'Atlantique. Alors maintenant, nous connaissons ça, pour le bon peuple, connaît ça par la télévision, mais c'est. Et puis alors, vous avez l'anticyclone estival, les Açores,
les Açores
qui, oui. responsables des canicules.
On va y venir, oui. Mais parce qu'en 1709, par exemple, vous avez dit, il y a eu 600 000 morts, mais ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que pourquoi il y a cette mort? On ne meurt pas plutôt, disons, du froid, mais des conséquences.
Alors, le problème, voilà,
du froid.
De même qu'on ne meurt pas de faim, on meurt quelquefois de faim, bien sûr, dans toute époque, mais surtout autrefois. Mais disons, par exemple, en 1629, 1630, on a une grande famine de pluie dans la vallée de la Loire, la vallée de la Garonne, et on a quand même un curé qui fait une liste et dit un peu plus de 100 personnes dans ma paroisse sont mortes de faim. Voilà, là, c'est sérieux. Mais en général, on ne meurt pas de faim, on meurt de la consommation de produits avariés, de choses comme ça, de cadavres d'animaux, etc. Et ce sont les résultats, c'est le typhus, ce qu'on appelle des fièvres, parfois, je ne sais pas très bien de quoi il s'agissait, parfois même de la variole, bizarrement, et enfin les dysenteries. Voilà les causes de mort. Et puis la peste, mais la peste n'était pas spécialement liée au climat.
Et alors, passons enfin aux canicules, donc au XXe siècle, par exemple.
Alors, les canicules sont évidemment de toute époque. Celles du XVIIIe siècle, on connaît bien leur... C'est surtout Marcel Lachiver, qui était un très grand historien du climat, disparu pas prématurément, enfin quand même encore relativement jeune, et qui a étudié, outre le climat de la deuxième moitié du règne de Louis XIV, les grandes canicules. Alors, les canicules de 1703-1706, avec un prélèvement d'environ 200 000 morts étalés en supplémentaire. C'est donc essentiellement déshydratation des bébés, ce qu'on appelait autrefois des toxicoses pour les enfants, etc. Surtout infantiles. Et puis alors, l'énorme canicule de 1719, c'est-à-dire que on a une série d'années plutôt fraîches, enfin, sans qu'il faille y avoir trop d'importance. Et de 1718 à 1729, puis on a toute une série de très beaux étés jusqu'en 1738. C'est une très belle période, mais il y a aussi quelques conséquences. Et la canicule de 1719 laisse derrière elle 400 000 morts en France.
Sur 20 millions de Français.
Sur, oui, 20 ou 21 millions. Et donc, il y a eu la peste de Marseille aussi. Les autorités s'en sont peu préoccupées et c'est tout de même Lachiver qui l'a découverte. Alors sinon, on a des canicules de routine, les grandes canicules de routine. Il y a celle de 1747 qui fait 200 000 morts et celle de 1700 au terme d'une série d'étés assez brûlants de 1779 dont le tarif, là aussi, est à 200 000 morts. Alors, 1900, c'est seulement 40 000 morts. Et puis, on tombe, alors, la fameuse canicule de 2003, où on a 17 000 morts supplémentaires, mais surtout des personnes âgées.
Et parce que c'est une différence notable entre les siècles précédents et les canicules du XXe siècle et du XXIe, c'est que, à l'époque, les enfants souffraient le plus de ces canicules, alors que de nos jours, ce sont les personnes
oui,
âgées.
Oui, je crois quand même que 2003 représente quelque chose d'original. Et ne parlons pas des incendies de forêt en Russie, qui sont quelque chose d'extraordinaire.
Mais là-dessus, comment peut-on expliquer cette différence entre, à l'époque, les enfants mouraient davantage et aujourd'hui, ce sont plutôt les personnes âgées?
Mais à l'époque, de toute façon, la mortalité infantile était considérable. Sous Louis XIV, schématisons, on a un enfant, pas toujours aussi grave que ça, mais en moyenne, un enfant sur quatre meurt avant l'âge d'un an. Un deuxième enfant meurt avant 20 ans, il en reste deux. Bon. Parce que par ailleurs, la mère était morte, etc.
Est-ce que vous avez évoqué la déshydratation des bébés.
Alors,
là, des,
oui, c'est ça. Alors, donc, il y a des canicules mortelles pour les bébés. Et c'est encore très marqué en 1911. Bizarrement, en 1947, par exemple, on a une année assez extraordinaire avec un hiver très rude et un été brûlant au point de vue des subsistances. On est plus sur l'ancien régime, mais enfin, ça a contribué quand même à l'inflation. de l'époque, mais la canicule de 47 ne fait pas de mort. Pourquoi ? Parce que les morts possibles étaient morts avant, évidemment, dans les restrictions alimentaires dues à la guerre.
Oui, il faut rappeler que le rationnement, je crois, l'étiquette de rationnement, n'ont été abolis qu'en 49. Oui.
Non, puis surtout les quatre années de
bien sûr. Et donc, après 2006, c'est la dernière canicule en date.
Oui, alors on a eu une de mes amies avait annoncé, après un printemps très chaud, qu'on aurait un été très chaud. Bon, on va voir cette fois-ci, mais vraiment, les saisons sont indépendantes les unes des autres. Et on a quand même le printemps chaud nous produit cette année une vendange précoce, bien que l'été peut-être un peu plus frais.
Merci beaucoup Emmanuel Leroy-Ladurie d'être venu nous parler au micro de Canal Academy. Comme d'habitude, au chapitre des recommandations, je m'en tiendrai à quelques livres seulement, piochés dans votre immense bibliographie. L'histoire humaine est comparée du climat, et en particulier le troisième volume, intitulé « Le réchauffement climatique de 1860 à nos jours » chez Fayard. Et puis un livre plus modeste qui fait la synthèse de vos recherches et qui est le fruit de vos entretiens avec l'historienne Anouchka Vazak, 33 questions sur l'histoire du climat, du Moyen-Âge à nos jours. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux fluctuations du climat en France depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, ce qui nous conduira à parler d'une question d'une actualité brûlante, le réchauffement global.